Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Bonjour. Voilà. Bonjour. Le dernier volet de notre émission sur l'énergie. Émission dans laquelle Stéphane Astier nous a transmis tout son savoir. Stéphane Astier est professeur émérite de l'Institut National Polytechnique de Toulouse et au laboratoire Plasma et Conversion d'énergie de l'Université Paul Sabatier et expert reconnu des énergies et du développement durable. Voilà pourquoi il nous a fait le plaisir de venir au cours de ces 4 émissions. Et voici la dernière où nous allons parler vraiment de la transition énergétique. Nous allons parler de comment la réaliser à titre mondial, national, individuel. Voilà, merci. Ah, je vous donne la parole. Alors, comment réaliser cette transition?
Oui, alors la dernière fois, on avait indiqué que cette transition consisterait à une électrification massive des usages, donc à produire encore plus d'électricité, tout en consommant globalement moins d'énergie et donc de façon plus efficace. Alors, et en recourant à des sources d'énergie décarbonées, notamment de production d'électricité décarbonée. C'est essentiellement ce dont je vais parler, hein. Alors, il y a deux grandes voies, le nucléaire et le renouvelable, au niveau mondial, comme au niveau de différentes régions, pour celles qui maîtrisent le nucléaire. Alors, au niveau mondial, l'essentiel sera couvert par le renouvelable. Le potentiel du nucléaire, on estime que au maximum, le nucléaire pourrait couvrir 10% des besoins mondiaux en électricité. Donc 90%, ou en tout cas plus de 80%, seront couverts par des sources d'énergie, renouvelables, les autres sources décarbonées, du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, etc. Maintenant, en fonction des atouts des différentes régions de différents critères régionaux, les proportions peuvent être très différentes. Et dans le cas de la France, elle devrait être très différente puisque la France a misé depuis longtemps sur le nucléaire pour son électricité. Et dans ce processus de transition avec une forte électrification, c'est un choix. On pourrait aller vers un système jusqu'à 100% renouvelable. Jusqu'à présent, ça n'est pas le choix qui a été fait au niveau de nos gouvernements. Et l'idée, ça serait de s'appuyer, comme on dit, sur les deux jambes, énergie renouvelable et énergie nucléaire. Alors, chacune de ces deux voies a des inconvénients et des avantages. Le problème Alors, nous, on bénéficie déjà d'un parc nucléaire important, mais il est ancien. Et donc, on est dans une phase de prolongation.
Oui, on arrête même pour les reformater.
Alors, pour l'instant, il y a une opération qu'on appelle le grand carénage qui a permis et qui permet de prolonger la durée de vie de nos réacteurs en satisfaisant toutes les contraintes de sécurité prescrites aujourd'hui suite aux différents accidents nucléaires qui ont eu lieu de par le monde et qui ont durci les critères de sécurité. Mais ce qui, on va dire, alourdit la mise en œuvre est à la fois le coût et les temps de construction des nouvelles centrales nucléaires.
La sécurité prime.
Alors, on sait que l'énergie nucléaire fait de nombreux débats. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Je donne simplement les traits principaux. Donc, compte tenu de cela, on prolonge la durée de vie de nos réacteurs existants. Mais il faut augmenter notre production d'électricité. Et donc pour cela, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires est programmée, a été lancée par le gouvernement de M. Macron à partir du discours de 2022 à Belfort. 6 réacteurs, nouveaux réacteurs EPR2 dans un premier temps, mais qui n'arriveront pas avant 2038-2040. C'est très long de construire des nouveaux réacteurs. Et globalement, on estime qu'on aurait, si on développe un nouveau parc nucléaire à l'horizon 2050, à peu près 50% de notre électricité qui serait produite par le nucléaire. Et tout le reste serait produit par des systèmes renouvelables, éoliens, hydrauliques. Alors, mais l'hydraulique, on ne va pas beaucoup le développer. Solaire. Qui peut être fortement développé. Alors, pour l'éolien, il y a l'éolien sur Terre, mais que la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie a plutôt bridé, et le développement de l'éolien qu'on qualifie de offshore, c'est-à-dire l'éolien en mer, qui est très prometteur. L'intérêt de ces filières renouvelables, c'est que on peut les développer beaucoup plus rapidement. Les mêmes unités de puissance peuvent se développer beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, l'électricité produite par ces filières renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, sont compétitives du point de vue, tout à fait compétitives du point de vue coût.
Et c'est vers quoi s'oriente la France ?
Alors, ce vers quoi s'oriente la France, c'est un système qui resterait quand même dominé par le nucléaire, mais 40%. Avec aussi, parce que c'est incontournable, beaucoup de renouvelables, et notamment pour répondre aux besoins à court terme, en accélérant l'électrification, et dans le même temps aussi, électrifier les usages. Parce que, et d'ailleurs, on a entendu récemment que on consommait pas assez d'électricité, plus précisément, c'est que les nouveaux usages électrifiés, c'est-à-dire les véhicules électriques pour les transports et les pompes à chaleur pour le chauffage dans l'habitat, qui nous affranchiraient petit à petit de la consommation des fossiles pour aller vers des usages électriques plus efficaces, ne se développent pas assez vite. Et donc, il s'agit d'accélérer cela, mais bon, on sait que c'est pas toujours facile compte tenu des coûts et des capacités individuelles de financement aussi.
Oui, bien sûr.
Justement, des aides pour accompagner. Enfin, c'est compliqué.
Justement, à titre individuel, qu'est-ce que vous conseillerez à nos auditeurs ?
Ce que je conseille, c'est effectivement, c'est d'aller vers des modes de transport électrique. C'est ce que recommande l'ADEME, ce que recommandent les agences. Je ne peux pas conseiller autre
chose. Beaucoup de véhicules, par exemple, sont hybrides maintenant.
Alors, il y a les véhicules hybrides. Dans les véhicules hybrides, il y en a qui sont plus ou moins électriques. Il y a les véhicules hybrides rechargeables, notamment, qui peuvent être utilisés. S'ils sont bien utilisés, parce qu'ils ont été très décriés, parce qu'ils ne sont pas toujours bien utilisés, ils sont à la fois thermiques et électriques, mais si on les utilise bien, au quotidien, on peut les utiliser complètement en électrique pour les déplacements urbains, et puis pour des déplacements interurbains, à ce moment-là, on a recours à l'essence en attendant d'avoir des véhicules électriques plus performants. Mais ces véhicules électriques plus performants qui permettent de se déplacer sur de longues distances, ils arrivent. Mais ils sont coûteux.
Depuis peu, c'est les Chinois qui sont en avance.
Les Chinois qui sont très en avance sur ces technologies, comme sur la plupart des technologies de transition.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut renouveler en un quart d'heure quasiment. On peut faire fonctionner une voiture pendant 700 km.
Je ne sais pas si c'est à ce point, parce qu'il faut se méfier des... Globalement, un véhicule électrique, il est quand même plus long à recharger qu'un véhicule thermique.
Mais c'est très récent.
Tout ça, ça introduit aussi le fait que c'est quand même tout un ensemble de nouvelles technologies qui doivent s'accompagner ou qui s'accompagneront inévitablement de nouvelles pratiques et de nouveaux usages. Donc, C'est une transition énergétique dont on parle, mais qui s'insère dans une transition sociétale beaucoup plus large, alors, qui rejoint aussi d'autres objectifs de préservation de l'environnement, préservation de l'eau, s'habiller différemment, consommer différemment. Mais c'est tout un ensemble de nouveaux objets aussi et de nouvelles pratiques qui font que qui vont aussi avec une adaptation au fait que le climat va se réchauffer, on va devoir voyager différemment aussi. Et donc, c'est vraiment une société à reconstruire. Hein. C'est pas que le fait de changer de source d'énergie.
Vous avez utilisé le mot hors antenne de sobriété.
Oui.
C'est un mot important, à mon avis.
Alors, la sobriété, elle est déjà inscrite dans la transition, dans le fait qu'on dit on va passer de 1600 à environ 1000 ou 1100 TWh consommés en énergie finale. Donc, c'est une sobriété qui est apportée par l'efficacité des nouveaux procédés mis en œuvre. Mais c'est d'une sobriété qui doit s'inscrire aussi dans les pratiques
individuelles.
Oui. C'est-à-dire, c'est le rapport à l'énergie qui change. Ce qu'on réalise, c'est que, et ce n'est pas vrai que pour l'énergie, c'est que les ressources de la planète ne sont pas infinies. Donc, concernant l'énergie, on a précisément dans le domaine de l'énergie la chance d'avoir des énergies renouvelables qui nous viennent directement ou indirectement du soleil. Et ça, on sait, ça vient de l'extérieur, c'est renouvelable. Mais ça mobilise aussi tout un ensemble de matières, ne serait-ce que la transition énergétique pour fabriquer les batteries, les nouveaux véhicules, etc. Et plus globalement, toutes les matières qu'on mobilise pour nos consommations de téléphones mobiles, etc., eh bien, il faut réapprendre à les économiser, à les recycler, à les réutiliser. Oui. Donc, il y a un rapport...
À ne pas consommer, jeter un portable, par exemple, au bout de 2 ans.
Oui. Il y a tout ce que recouvre le concept des empreintes, les empreintes en matière de matériaux critiques, etc., de... Toutes les matières, toutes les ressources qu'on mobilise qui doivent être réduites. Et la sobriété, ça va
bien
avec
sûr,
ça. Et si on veut maintenir un certain niveau de vie, de confort, c'est dans un rapport différent aux ressources, non seulement aux ressources énergétiques, mais aux ressources, encore plus, je dirais, aux ressources matérielles en général, parce que, pour le coup, si l'énergie, elle peut venir, elle vient de l'extérieur, elle vient du soleil, toutes les matières qu'on mobilise, elles viennent de la Terre. Hein, pour l'instant, on est encore loin d'aller les chercher ailleurs que sur la Terre.
Oui.
Mais il y a de quoi être positif, c'est encourageant.
Tout à fait.
L'objectif 1,5 degré de réchauffement, je pense que maintenant, il faut y renoncer. Hein. On va dépasser les 1,5 degrés dans les 4 ou 5 ans à venir, d'après les prévisions. Par contre, on pourrait, suivant les scénarios, ce qu'on appelle zéro émission, NZ, net zéro émission, en 2050, on peut viser un réchauffement de 1,7 degré. En dessous des 2 degrés, et ça maintiendrait une terre vivable avec une vie confortable.
Voilà, il faut terminer par une note d'optimisme, Stéphane Astier. Oui. Je vais vous parler de quelqu'un que vous avez apprécié, tout comme moi d'ailleurs, beaucoup, de René Dumont.
Oui.
En 1974, on l'avait vu à la télévision, c'était le premier écologiste qui donnait l'alerte, qui parlait de pollution, de gaspillage, d'inégalité entre les pays prônant entre autres les économies d'énergie. Et cette préoccupation ne date pas d'hier. C'était le premier donneur d'alerte.
Eh oui.
Voilà. Mais on vous a écouté, on vous a entendu.
Merci.
Maintenant, un grand merci à vous. Et faisons bon usage de vos conseils. Et il y a de quoi faire. Au revoir, merci.
Au revoir, merci.